Vous étiez là, chers auditeurs? C'est toujours très embarrassant. Permettez-moi. Oui, bon, puisque vous m'avez surpris, autant que je vous explique. Ben voilà, c'est une nouvelle technique que j'ai inventée. Hein. Voilà, une idée très originale qui m'est venue comme ça, sans forcément que j'y pense, hein, comme viennent toujours les grandes idées. Ben, ça consiste en voilà, se fournir des feuilles d'ortie raisonnablement fraîches, voyez-vous, oui, des feuilles d'ortie, et s'en servir pour se masturber, hein, voilà, glisser son sgeg dans une poignée de feuilles, hein, voilà, parce que oui, ça pique, ça picote et ça stimule très agréablement le bout du dit membre en question. Eh oui, c'est très bien. Je vous conseille d'essayer d'ailleurs si vous n'êtes pas allergique. Hein. Ah là là, je suis génial et admirablement créatif, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quel meilleur moyen de vous le rappeler davantage qu'en vous offrant une merveilleuse nouvelle histoire. Hein. On fait ça tout de suite, hein, après le générique. Nous sommes presque 30 années avant l'incident des carottes de Samuel, 4 jours après le décès du roi Gaston XVII le Conquérant, et de son fils attardé Henri, le prince qui sculptait ses crottes. Une fois le corps du défunt souverain rendu à la terre, sa chambre royale, au château, fut attribuée à son successeur, le jeune client premier du nom. Et c'est dans cette chambre, en cette douce soirée, que nous retrouvons le dit jeune seigneur, en compagnie du valet Gonzague, et d'un tailleur, œuvrant à la confection d'un royal costume.
Tout est prévu pour votre couronnement, sire. La cérémonie pourra bien avoir lieu comme prévu.
Ah bien, 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 super nouvelle, mon bon Gonzague.
Cela dit, sire, j'espère que vous pardonnerez mon audace, mais vous ne m'avez pas encore répondu au sujet de la campagne.
Hein? Laquelle? Parce que ça peut être plein de choses, une campagne, hein, vous savez bien. Une campagne électorale, une campagne publicitaire, une exploitation agricole aussi, et...
Certes, sire, mais...
Oui, I got the vocabulary, moi, hein, l'érudition s'appelle client, tout ça, tout ça.
Et tout le royaume ne pourra que s'en estimer très chanceux, mon bon prince. Mais je faisais plutôt allusion au dessein militaire de feu votre père. Devons-nous maintenir les projets d'extension territoriale qu'il avait démarrés avant son trépas?
Alors d'abord, j'avais très bien compris. Et puis, non, je ne crois pas. Je ne suis pas certain qu'il soit judicieux de donner à nos frontières la forme d'un dessin. Et surtout d'un dessin sexuel, c'est de mauvais goût. Non, le contour actuel du pays me convient très bien comme il est. Hein. Sa forme d'amande étirée et placée en parfaite verticalité ne m'évoque rien de charnel en tout cas.
Fort bien, sire. Je ferai donc renvoyer dès demain matin tous les garçons aînés qu'on nous a déjà envoyés ces derniers jours. Leurs mères seront d'ailleurs très heureuses de les revoir tous sains et saufs. Et vous faites par ailleurs économiser une fortune au royaume en refusant cette guerre. C'est là une première décision assurément très avisée. Félicitations, sire.
Ah oui, I got aussi the power flower, hein, mon bon Gonzague. Et puis bon, c'est pas plus mal, hein, comme vous dites, hein, ça fera des sous en plus pour financer la fête.
Ah diantre, oui, j'ai failli oublier. Nous devons encore aborder le sujet du bal costumé que vous donnerez après la cérémonie de couronnement.
Ah oui, tout à fait. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me fais confectionner ce joli déguisement. Hein. N'est-ce pas, mon cher monsieur le tailleur, hein? Appliquez-vous, hein.
Oui, mais ça aiderait si monsieur voulait bien arrêter de bouger. Hein.
Eh ben oui, moi je veux bien, hein, mais vous me chatouillez la cuisse avec votre aiguille, là.
Ah, c'était pas mon aiguille, ça.
Hein? Quoi?
Bref, si je puis me permettre de vous rassurer au sujet du bal, votre Altesse. De ce côté aussi, les choses vont bon train. J'en ai confié l'organisation à une personne hautement réputée dans le domaine des festivités. Cette dame attend d'ailleurs justement derrière la porte. Voudriez-vous que je vous la présente?
Oh, oui, pourquoi pas?
Je la fais entrer, sire.
Et donc, c'était pas votre aiguille, vous disiez?
Oubliez ça, ça vaut mieux. Hein.
La voici, sire. Je vous présente Miranda Benlovitch, l'organisatrice du bal.
Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Oh, mais bougez pas.
J'ose espérer que vous ne ferez pas attention à ces petites particularités, sire. Elle est là pour assurer les quotas sociaux requis dans les programmes de divertissements actuels. Voyez plutôt, c'est une femme, elle est noire, musulmane, végétarienne, handicapée motrice et mentale, homosexuelle, et elle a 3 cancers en plus du sida. Comme ça, on est certain que toutes les minorités vont pouvoir s'identifier à elle, et c'est le succès garanti pour cette histoire.
Vous croyez vraiment que des gens, même très minoritaires, vont vouloir s'identifier à... ça ?
Et près de 2 jours passèrent sans un écroche pour nous mener jusqu'au surlendemain, jour de la cérémonie.
C'est sur invitation uniquement, hein ? Alors j'en ai rédigé une pour moi-même, au cas où on me laisserait pas entrer ce jour-là, hein ? On sait jamais.
Si c'était un Disney, je vous dirais bien que tout le royaume avait été invité au palais pour célébrer l'heureux événement, mais voilà, Monsieur Disney, aussi talentueux qu'un peu con, avait tendance à considérer naïvement qu'un royaume, c'est juste un genre de ville avec un château au milieu et un peu de campagne autour des murailles et point barre. Or, ben non, hein, c'est un état avec une population très nombreuse et éparse, alors c'est pas possible de les inviter tous. D'ailleurs, comment ils feraient, hein, les gens du petit peuple, hein, c'était des serfs, on leur demandait de produire de quoi bouffer, de bien fermer leur gueule, et ça leur allait très bien comme ça. De plus, ces paysans, ils vont abandonner leur culture et tout laisser en plan pour aller voir un mec se faire poser une couronne, peut-être. Sachant qu'il leur faudrait, pour certains en tout cas, plusieurs jours pour faire le trajet, vu qu'ils habitent loin de la capitale, hein. Et qui leur paierait le voyage, le roi? Nanny, ma chère. Et d'ailleurs, je vois de toute façon mal ces planteurs de carottes tenir une note de frais pour l'occasion, alors qu'ils ne savent pratiquement tous pas lire, hein. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils n'auraient pas pu déchiffrer l'invitation en question. Donc, voilà, définitivement, non, hein. Fut donc simplement invité à la fête, la noblesse du royaume, ainsi que quelques notables de la capitale, tous conviés par les bons soins du valet Gonzague. Oui, le bon roi n'ayant pas d'amis, il se devait de charger quelqu'un de lui en trouver pour la soirée, voyez-vous.
Dans ces cas-là, il suffit de marquer buffet à volonté sur l'invitation et ça marche toujours.
Le sacre du roi client premier eut donc lieu en début d'après-midi dans la vaste chapelle du palais royal, et la cérémonie fut dirigée par le chancelier en personne. Mais oui, vous savez, cet homme d'état qui sera nommé régent 20 ans plus tard après le putsch de la princesse Migraine. Évidemment, vu sa particularité d'être en avance sur son temps et de dire dans le présent des phrases issues de conversations futures, il fallut alors confier au valet Gonzague la fonction d'interprète, hein, car ce dernier manifestait déjà la grande qualité de pouvoir comprendre et traduire les paroles du dit chancelier, ce qui fut bien pratique.
Hannibal lui-même, le cauchemar de tous les Romains et le modèle de tous les stratèges, était issu d'une famille de marchands.
En ce jour historique, mesdames et messieurs...
Et les loups romains, insatiables, se sont entre-déchirés pour la proie.
Alors qu'un monarque s'éteint, un autre s'élève.
J'avais besoin de lui, c'était mon meilleur général. Mais hélas... mes efforts ne furent récompensés que par sa trahison.
Puisse sa sagesse nous guider et sa vaillance défendre la grandeur de notre culture ainsi que notre souveraineté sur cette terre lointaine sans l'être à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge mais plus vraiment l'Antiquité et qui ont un sol propice à la poussée des carottes.
La mer. Mon foyer.
Et ainsi donc, client premier, fils de Gaston XVII et petit-fils de Minuit VI, es-tu proclamé roi et te sont remis les pleins pouvoirs sur nos vies et notre destinée jusqu'à ce que mort nous sépare. Vous pouvez maintenant embrasser le couronné.
Quoi ?
Flavius nous respecte, mais ne nous craint pas.
Oh, le chancelier s'excuse, il s'est mélangé avec un autre sermon sur la fin.
Nous avons conquis l'île.
Mais la cérémonie ne s'arrêta pas là. Ah oui, car après le couronnement, restait encore à suivre le discours du nouveau roi, lequel était ensuite tenu, selon la rigoureuse tradition multiséculaire, de performer un karaoké suivi d'un numéro de claquettes. Venaient ensuite les vœux d'encouragement des invités qui désiraient s'exprimer, et il y en a toujours qui veulent se faire bien voir en espérant monter en grade, avant de terminer par un autre numéro de claquettes du nouveau souverain sur un air d'opéra. Et bref, cette longue suite de rituels sacrés répétés depuis des temps immémoriaux dans ce grand pays menèrent jusqu'au crépuscule, moment où put enfin commencer le grand bal costumé. Débutèrent donc les festivités sur fond de liesse populaire dans la salle du trône du palais royal, trône sur lequel nous retrouvons siégeant notre ami le bon roi client.
Alors, votre Altesse, le bal se passe-t-il selon vos désirs ?
Oh oui, très bien, merci. Oui, tout ce monde présent me change agréablement de mon habituelle tout solitude, oui. Voyez-vous, je me sens parfois comme une torche éteinte, espérant un jour croiser la route de quelque autre torche qui pourrait me réenflammer, tout ça.
Je vois, sire. En tout cas, permettez-moi de vous dire que votre déguisement d'aubergine est très réussi.
Ah bah merci, mon bon Gonzague. J'étais d'ailleurs justement en train d'admirer ceux de mes invités. Oh tiens, en parlant de flammes, c'est original, ça, là-bas. L'homme près du buffet, là, vous voyez, qui s'est déguisé en feu de forêt.
Non, sire, ça c'est juste un tout petit incident avec la fondue bourguignonne, mais ce sera très vite réglé.
Ah bon ? Et la fête se déroula joyeuse et raffinée, les invités riant, dansant et bavardant, sans manquer, lorsqu'ils le croisassent, de s'incliner devant client. Pourtant, un peu avant minuit sonnante, se produit un événement.
Mon bal étant déjà un événement en soi, ça fait un peu comme un événement à l'intérieur d'un événement, et c'est subtil, non ?
Que fût-ce, chers auditeurs, que fût-ce qui ainsi fit s'écarter la foule entassée au centre de la grande salle, comme si quelque personnalité crainte ou considérablement respectée s'avançait peu à peu du seuil de l'entrée vers le trône royal, ouvrant lentement la foule en deux par sa prestance singulière et à mesure de son passage, tel Moïse au bord d'une mer salée.
Mais qui est-ce donc là, Gonzague ?
Je ne saurais le dire, sire. Je ne vois guère de ce point de mire.
J'ai quand même pas envie de me faire piquer la vedette, hein, parce que...
Une jeune fille venait de sortir de la foule, juvénile et radieuse, et dont les tendres yeux verts étaient partiellement masqués par quelques boucles blanches s'échappant de son étrange déguisement. La demoiselle au crin blond platine se tenait face au roi et se courbait pour lui faire ses hommages, tout en s'excusant de le déranger, car elle pensait de base avoir pris la direction du buffet à volonté, en fait. Mais le roi client s'approcha d'elle, subjugué qu'il était.
Aucun problème, ma gentille demoiselle. Je vais vous y conduire. En tout cas, j'aime beaucoup votre déguisement. Je trouve sa forme très esthétique. Mais qu'est-ce donc ?
Ah, merci. Eh bien, je n'ai pas retenu le nom, mais c'est un genre d'oiseau géant des lointaines terres du Sud. Je trouve cet animal plutôt captivant. Il ne vole pas, mais possède des puissantes jambes et un adorable cou, long comme celui d'un cygne.
Oh, mais c'est choupinet, ça. C'est majestueux, comme tout. Un adorable petit oiseau du Sud et...
Et sa viande est succulente, je vous la recommande.
D'accord. Tout cela dit, je ne pense pas vous connaître, belle enfant.
Je suis la fille du duc de Cartalante, qui n'a hélas pas pu venir à cause de sa mauvaise santé. Je me nomme Gertrude.
C'est un très joli nom.
Merci, vous êtes bien la plus aimable aubergine que j'aurais rencontrée. Mais plus sérieusement, sire, il y a une chose que je ne comprends pas.
Ah bon? Quoi ça?
Vous ne me fuyez pas? Vous ne me trouvez pas repoussante?
Non, que du contraire, voyons, mademoiselle Gertrude, mais pourquoi dites-vous cela ?
Vous ne savez pas non plus pour mon surnom et ma réputation ?
Eh bien, non, je crains fort que je ne vous découvre qu'à peine, tout ça, I got the discovery, so what ?
Autant que je devance les ragots, alors. J'ai vécu, voyez-vous, une terrible expérience étant enfant. J'ai failli me noyer, alors... Depuis, je ne supporte plus de me plonger dans l'eau, y compris celle d'un bain. Pourquoi pensez-vous que tout le monde s'écartait quand je suis entrée tout à l'heure ? Ne sentez-vous donc pas ? Depuis des années que cela est arrivé, j'en peste à plusieurs mètres. Tout le monde m'appelle la dégueulasse.
Ah bon ? C'est que je ne sens rien, moi.
Hein ? Vraiment ? Mais comment est-ce possible ? Vous êtes enrhumée ?
Non, pas du tout, mais vous savez, j'ai vécu la majeure partie de ma vie en compagnie d'un demi-frère qui faisait des sculptures avec ses cacas de façon plus ou moins quotidienne, alors moi les odeurs depuis le temps, je fais plus attention. Ah, bah nous voici au buffet, vous venez ?
Oh mais, vous êtes vraiment unique, vous.
Client et Gertrude discutèrent toute la nuit durant, même après que tous les invités furent partis et que l'aube vint à poindre. Épuisés, les deux jeunes amis allèrent finalement se coucher, Client dans sa nouvelle suite et avec un grand sourire béat, et Gertrude dans la plus somptueuse chambre d'amis encore inoccupée que Client put lui faire trouver. La belle dégueulasse était supposée repartir à la mi-journée, mais Client insista pour qu'elle prolongeât son séjour au château. Et du coup, les jours passant, de discussions en connivence, de surprises en compréhension, les deux amis franchirent bientôt le pas de la romance. Très vite d'ailleurs, au point même de projeter très vite le mariage. Et c'est seulement une vingtaine de jours après leur rencontre qu'eut lieu la cérémonie de l'heureux événement en question.
Deux cérémonies en un seul épisode. Eh ben, je suis gâtée, moi.
Les portes de la ville capitale furent fermées et gardées par sécurité, tandis que la population dans les rues festoyait elle aussi.
et une fois encore, dans la chapelle du Palais Royal.
Ce couard de Rémijus a trouvé refuge au nord-ouest.
Les vœux ont été prononcés sous le regard témoin du Seigneur que nous saluons au passage.
Mais c'est un fin renard, et il essaie en ce moment même de s'infiltrer à l'ouest.
Que parle dès maintenant qui s'oppose à cette union ou qu'il se taise à jamais. Mais pas de mariage, pas de gâteau, vous êtes prévenus.
Je remercie Jupiter d'avoir guidé cet homme vers nous.
Je déclare la vente adjugée au monsieur au fond à droite.
Quoi ?
Flavius nous respecte, mais ne nous craint pas.
Oh, le chancelier s'excuse, il s'est mélangé avec un autre sermon sur la fin.
Nous avons conquis l'île.
Et voici qu'enfin convolés en juste noces, les amants aient pris l'un pour l'autre. Et la réception qui suivit fut grandiose et garnie par un buffet plus abondant que jamais.
Comme je suis le roi maintenant, je ne dois plus payer la TVA sur mes achats, alors j'en profite.
Les deux tourtereaux étaient au comble du bonheur. Chacun d'eux, dont la vie n'avait été qu'un long et pénible isolement, découvrait avec émerveillement un destin favorable, les joies de la vie et les plaisirs des rencontres. D'ailleurs, malgré son odorante particularité, le peuple sut faire un accueil chaleureux à la reine dégueulasse, autant qu'il l'avait fait plus tôt au fils bâtard de Gaston XVII. Le couple royal était heureux. Leur union scellée, le peuple conquis, et sans rien à l'horizon pour menacer leur bonheur. Cependant, lors de la lune de miel, alors que, dans une allégresse jamais atteinte, nos deux amis copulaient comme du gibier en rut sous la canicule, une chose surprenante allait se produire. Sous les coups de rein de client, Gertrude eut soudain une impression étrange. Une sensation de déséquilibre, voyez-vous. Elle remarqua alors, de ses yeux écarquillés de façon rondement circulaire, que le lit sur lequel il se trouvait flottait en l'air, au milieu de la chambre et à 2 bons mètres du sol. Le lit se mit d'ailleurs soudain à tournoyer. D'abord, très lentement, puis un peu plus vite, et encore et toujours plus vite.
Client !
Hein, quoi donc, ma...
Qu'est-ce que c'était, client? C'est toi qui faisais ça?